Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Dans l'agenda de flashback du mois d'août, on parle de la version restaurée de Belle de jour et d'une rétrospective de 6 films de Luis Buñuel et d'une foultitude de ressorties allant de L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock aux Misfits de John Huston en passant par I Magliari de Francesco Rosi, Ginger et Fred de Federico Fellini et deux classiques de la comédie américaine avec Cary Grant. On commence cette très riche actualité des ressorties du mois d'août avec un grand monsieur du cinéma, je veux bien sûr parler de Luis Buñuel. Tout d'abord avec la restauration 4K de Belle de jour qui ressort le 2 août et une rétrospective, je trouve très justement intitulée Un souffle de liberté, qui regroupe 6 des films les plus connus du maître, La Voie lactée, Le journal d'une femme de chambre, Le charme discret de la bourgeoisie, Tristana, Cet obscur objet du désir et Le fantôme de la liberté. Alors Buñuel se fait bien sûr connaître dès les années 20 avec le mouvement surréaliste et sa collaboration historique maintenant avec Salvador Dali qui donneront Un chien andalou et L'âge d'or. Puis ensuite, après quelques remous politiques, Buñuel s'en va au Mexique dans une période mexicaine particulièrement faste qui verront notamment naître des films aussi importants que Los Olvidados ou L'Ange Exterminateur. Et puis en 1961, il crée le scandale en revenant en Espagne, remportant la Palme d'Or pour Viridiana. Et puis enfin, sa période française, sous l'égide du producteur Serge Zilberman, qui débutera avec Journal d'une femme de chambre en 1963 et s'achèvera avec Cet obscur objet du désir en 1977. Belle de jour, tout d'abord, exploration du fantasme féminin où le réel et l'imaginaire se confondent. Alors, c'est tout à fait ce qu'il y a de plus fascinant dans l'œuvre de Buñuel, c'est bien le traitement des rêves qui est, selon lui, une prolongation de la réalité. À voir d'ailleurs le tintement des grelots dans Belle de jour, qui est une magnifique évocation de où en est le spectateur dans la réalité, où le rêve on ne sera jamais véritablement, et le film d'ailleurs peut susciter des interprétations assez différentes au fur et à mesure des visionnages. Le rêve qui est construit d'ailleurs parfois comme une succession de poupées gigognes, comme dans Le charme discret de la bourgeoisie, qui est sans doute pour moi son plus grand chef-d'œuvre, en tout cas le film où les règles sont abolies. C'était d'ailleurs son credo. Et d'ailleurs, à propos du scénario qu'il écrivait avec son fidèle complice Jean-Claude Carrière, il proclamait « Un scénariste doit chaque jour tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie ». Et je trouve que ça résume parfaitement bien l'une des œuvres les plus libres de l'histoire du cinéma. Il voyait d'ailleurs la liberté comme un fantôme que l'on essaye d'attraper, à l'instar du très bien nommé Fantôme de la liberté. Là, sans doute, son film le plus fou, sorte de film à sketch complètement dingue dans sa créativité. Et cette liberté, parfois déconcertante, ou aussi incroyablement érotique, qui ne peut pas ne pas se souvenir de cette scène où Catherine Deneuve se dévoile sur son balcon dans Tristana, scène d'un érotisme incroyable alors que absolument rien n'est montré. Buñuel filme une comédie humaine ou trop humaine à la fois, où les êtres sont empêchés, que ce soit les bourgeois, qui ne parviennent jamais à se mettre à table, dans Le charme discret de la bourgeoisie, ou Fernando Rey, dans Cet obscur objet du désir, qui ne parvient pas à assouvir ses fantasmes face à une femme qui se refuse sans cesse à lui, jouée par deux actrices, Angela Molina et Carole Bouquet. Encore une idée géniale, quoiqu'au départ, ce rôle était prévu pour Maria Schneider. Le cinéma de Buñuel, malgré ou à cause de son infinie richesse, n'est pas un cinéma de virtuose. Lui d'ailleurs se disait peu intéressé par les prouesses techniques. Il n'aimait pas non plus expliquer son œuvre, se méfiant beaucoup des intentions symboliques. On restera encore longtemps fasciné devant ses derniers plans énigmatiques, cette autruche qui nous toise à la fin du Fantôme de la Liberté. Et bien sûr, ces bourgeois errants, sans fin, du charme discret de la bourgeoisie, un monde qui ne va nulle part et ailleurs, on ne saura jamais. À la question « Qui sont vos réalisateurs préférés ?», Alfred Hitchcock avait répondu « À part moi, Buñuel ».
Écoutez Antoine, à part regarder un film de Buñuel, il y a peu de choses qui sont aussi passionnantes que de vous écouter parler de Buñuel. On sent vraiment que c'est vraiment un de vos cinéastes préférés, quoi.
Extrait.
Veux-tu que je te dise un secret, Séverine ? Je t'aime chaque jour davantage.
Un jour, il fallait que je vous voie. Sans votre mari, naturellement. Chez Anaïs. 11 cité Jean de Saumur.
N'ayez pas peur. Vous êtes ici chez vous. Je suis toute prête à vous aider. Quand voudriez-vous commencer ? Vous êtes gentille et fraîche. C'est le genre qui plaît ici. Si vous vous appeliez Belle de jour.
Oui, si vous voulez.
Vous avez quelqu'un qui vous attend ? Un petit ami ? Un petit mari ?
Hitchcock toujours, décidément on ne se refait pas, avec L'ombre d'un doute qui ressort en version restaurée le 9 août, film réalisé en 1943, qui voit Joseph Cotten interpréter l'inquiétant oncle Charlie, qui part se réfugier chez sa sœur, où il retrouve sa nièce, qui porte le même nom, Charlie, et qu'il admire, mais elle finit par le soupçonner d'être un tueur de riches veuves. Alors on a souvent dit que c'était l'un des films préférés d'Hitchcock, sur un scénario du brillant écrivain Thornton Wilder, l'arrivée du mal dans une petite ville américaine calme et paisible, personnifiée par Joseph Cotten dans son plus grand rôle. Et puis, il y a bien sûr, Antoine, ces détails qui font tout le génie hitchcockien, comme lors, par exemple, de cette scène d'ouverture. Vous voyez, à la gare où arrive le train où va descendre Charlie, on aperçoit une très forte fumée noire qui s'échappe de la cheminée de la locomotive. Et lorsque le train se rapproche, le quai est totalement obscurci.
Alors, il y a bien sûr toutes ces prouesses. Et puis, il y a quand même c'est quand même un film un petit peu à part, à certains égards, dans la carrière de Hitchcock. Alors, il a quand même des petits côtés remake, parce que d'une certaine manière, Teresa Wright, dans ce film, par rapport à Joseph Cotten, est un peu la femme qui en savait trop. Et donc Hitchcock a fait deux fois L'homme qui en savait trop et d'une certaine manière une fois La femme qui en savait trop, puisque finalement le film atteint une tension tout à fait incroyable lorsque elle-même commence à avoir des soupçons, ou même beaucoup plus que des soupçons, alors même que celui qu'elle soupçonne a été lavé de tout soupçon devant le public. Donc il y a quelque chose de, alors là vraiment une mécanique très très hitchcockienne. Par contre, on a une Teresa Wright dans ce film qui est une femme dont Hitchcock admire l'intelligence. C'est une femme assez volubile, donc très différente de la femme froide telle qu'on la décrit dans le film hitchcockien habituel. C'est un film sur la métamorphose d'une femme. Elle passe au début, elle est un peu immature, on sent qu'elle est intelligente, mais elle prend un peu les choses comme elles viennent. Joseph Cotten, ce personnage très mystérieux et il faut bien le dire, très sombre, va être celui qui va déclencher sa métamorphose et d'une certaine manière la faire passer à l'âge adulte et à l'âge de l'intelligence des adultes. Et je trouve qu'il y a peu de films d'Hitchcock qui s'intéressent en fait réellement autant au personnage féminin dans sa profondeur.
As a foul sty. Do you know if you ripped the fronts off houses, you'd find swine?
I don't want you to touch my mother. So go away, I'm warning you. Go away or I'll kill you myself.
autre ressortie, celle des Misfits de John Huston, en français Les Désaxés, réalisé en 1961, qui ressort le 16 août en version restaurée. L'histoire d'une jeune divorcée campée par Marilyn Monroe, qui se lie d'amitié avec un groupe de Misfits, composé d'un cow-boy vieillissant, d'un mécanicien au cœur brisé et d'un cavalier de rodéo qui vont partir chasser le Mustang sauvage. Le film est tiré d'une nouvelle d'Arthur Miller, qui était à l'époque le mari à la ville de Marilyn Monroe. Un film qui est surtout connu, avant tout connu, peut-être essentiellement connu, mais c'est un peu sévère ce que je dis, pour être le dernier film, c'est vrai, de Marilyn Monroe, de Clark Gable, qui mourra quelques semaines plus tard, et de Montgomery Clift, et aussi connu pour une scène que je trouve pour ma part assez exceptionnelle de chasse de Mustang, qui est quand même, Antoine, magistralement filmée par John Huston.
Oui, il y a effectivement ces images absolument extraordinaires. C'est aussi le passage de Huston. Huston, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui appartient au vieil Hollywood et qui va appartenir aussi au nouvel Hollywood, hein, où il va faire des films très réussis qui n'ont aucun décalage temporel avec
l'époque. C'est d'ailleurs une filmographie vraiment une des plus étonnantes.
Cinéma. Et d'une certaine manière, ce film est quand même un peu un film charnière entre une façon entre des acteurs qui sont plutôt des acteurs qui appartiennent au vieil Hollywood et une façon de filmer qui, elle, prélude déjà, présage presque de l'avenir. Donc ça, c'est intéressant. Bon, et puis effectivement, il y a cette dimension crépusculaire très importante. C'est effectivement très émouvant. Après, c'est ni le meilleur film de Marilyn Monroe, ni le meilleur film de Clark Gable, ni celui de Montgomery Clift, en tout cas en termes de prestation d'actrice ou d'acteur. Mais cette dimension crépusculaire en fait un film absolument incontournable.
Did you ever think of getting married again?
Yeah, I thought about it a lot of times, but never in daylight.
You get lonesome before your children?
Oh, I see them a couple times a year. They come whenever I'm in a rodeo. I'm a pretty good roper. I get lonesome, sure. My daughter is almost your size. You size 12?
Uh-huh. Mm.
So she. I bought her a dress for Christmas, size 12.
What happened? Did you just stop loving your wife, Gay?
Well, I come home one night and she's all wrapped up in a car with a fella. Turned out to be an old friend, a cousin of mine, as a matter of fact.
Le cinéma italien a également le droit de citer dans ce numéro de flashback avec tout d'abord le deuxième long-métrage de Francesco Rosi, le méconnu I Magliari, qui sort en version restaurée le 23 août, réalisé en 1959, restauré par la Cinémathèque de Turin, où l'on voit un ouvrier qui part pour l'Allemagne, il est vite désargenté, il fait la rencontre d'un compatriote qui le prend à son service, mais le trafic auquel il se livre se révèle plus que douteux, le Magliari signifiant petit voyou tricheur. Alors c'est donc le deuxième film de Francesco Rosi, il n'est pas encore à ce moment-là le maître du thriller politique et du film dossier dont il fut quasiment l'un des inventeurs avec des œuvres aussi majeures que l'affaire Mattei ou Mabas sur la ville. Rosi accorde, comme souvent, une importance particulière aux lieux qui sont d'une très très grande authenticité, les bars enfumés, les rues, on est vraiment dans quelque chose de très 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 authentique. Ce qui est assez étrange, c'est que le film débute comme une comédie à l'italienne dans le même veine que Le Pigeon, alors c'est sans doute grâce à la prestation de Alberto Sordi, et il se termine pour autant en drame amoureux. On est une fois encore frappé par le regard acéré porté par Francesco Rosi. C'est une description très juste d'une réalité sociale où les truands envie même la situation des ouvriers dans une scène assez assez étonnante. Le cinéaste montre très bien le prix à payer afin de monter dans l'échelle sociale et le film bénéficie surtout d'une interprétation donc de très haute volée dominée par Alberto Sordi, tour à tour hâbleur, paumé et misérable. Autre ressortie transalpine, celle de Ginger et Fred de Federico Fellini, qui ressort en version restaurée le 9 août, réalisé en 1986. Un ancien couple de music hall se retrouve après une séparation de 30 ans à l'occasion d'un show télévisé. Ils doivent reprendre leur imitation de Fred Astaire et Ginger Rogers dans un numéro de claquettes, mais le monde auquel ils ont appartenu est bien sûr très différent de celui de la télévision.
Et alors là, dans ce film, alors on parlait de film crépusculaire, là on est encore un peu dans un crépuscule, on est un peu au crépuscule de Fellini, parce que c'est la fin de sa carrière, et puis on a deux acteurs qui sont essentiels dans sa vie,
que je n'ai pas encore cité.
Voilà, mais que je, pardon, mon cher Antoine, je vais les citer évidemment. Hein, c'est Giulietta Masina qui était la compagne de Fellini à une époque et qui était la grande actrice de sa vie. Il n'y a pas vraiment de film de Giulietta Masina sans Fellini, alors que par contre, elle est très présente dans certains de ses films. Mastroianni, évidemment, qu'on a dans la Dolce Vita notamment. Et donc, c'est vraiment tout ce petit monde-là se retrouve un peu pour un dernier bal et pour dire d'une certaine manière que l'époque dans laquelle on rentre n'est plus la leur. Je veux dire, le message, il est aussi celui de ceux qui ont fait le film.
Oui, c'est intéressant parce que c'est comme si toute l'Italie de Fellini, qu'on a à la fois vue dans Amarcord ou dans 8,5, se retrouvait tout entière dans un spectacle télévisé. C'est ça qui est très intéressant. Les mafieux, les curés, les saltimbanques, les nains, enfin, il y a toute une farandole.
Mais pour un dernier bal télévisé, il y a un côté,
oui.
Il y a un côté Last Waltz dans cette histoire.
Il y a un côté dernier tour de piste, c'est vrai. Et puis, il y a à la fois aussi une dénonciation. Ça, il ne faut pas le mettre de côté. C'est une dénonciation quand même assez virulente d'une télévision sous emprise berlusconienne déjà à l'époque.
Et qui est l'artisan du déclin d'un monde aussi.
Et tout à fait. Et l'omniprésence de la publicité, d'ailleurs, jusqu'à la dernière image qui est assez amère. Le film se situe d'ailleurs très bien dans une période de déclin fort pour le cinéma italien qui voit son âge d'or totalement disparaître hein, au profit de la télévision. C'est en effet le crépuscule de Fellini, mais certains grands cinéastes ont déjà disparu. Et puis, ce qu'aime sans doute le réalisateur, c'est qu'il filme un univers de studio factice, aux couleurs criardes, des décors signés Dante Ferretti, son grand chef décorateur qui deviendra ensuite le décorateur de Scorsese, tourné évidemment dans les studios de Cinecittà. Alors, d'ailleurs, le film a par certains côtés un peu vieilli, hein, la post-synchro qui encore existait dans les années 80. On sait que c'est une marque de fabrique du cinéma italien, mais là, elle paraît anachronique, des incrustations un peu douteuses. Mais il y a surtout cette tendresse folle, évidemment, pour ces deux interprètes que vous avez cités, Giulietta Masina et Marcello Mastroianni. Leur pas de danse est un beau moment à redécouvrir donc dans les salles dès le 9 août.
Et il suo partner dov'è?
Lo sto aspettando anch'io, però mi dicono che ci sono continuamente degli arrivi. Ma che c'è, Fiatone?
No. Si vede che ritrovare te gli fa bene.
Dici?
Beh, ma lo sai che sono 30 anni che non vi vedevo insieme.
Eh no.
Le mie scarpe!
Ma chi me l'ha fatto fa?
Ma non siete sposati?
Io sono sposata, ma non con lui.
Se eravate sposati era meglio.
Ma non capisco perché.
Funziona di più. Al pubblico piacciono sempre le storie d'amore, compagni d'arte e di lui.
On termine cette séquence des ressorties avec deux annonces. Tout d'abord, une rétrospective consacrée au cinéaste japonais Takeshi Kitano, avec la restauration de trois de ses films, Kids Return, réalisé en 96, Hanabi, qui lui apporta la consécration, et Le Lion d'or à Venise en 97, et L'été de Kikuchiro en 99, sélectionné à l'époque à Cannes, version restaurée qui devrait nous rappeler à quel point le cinéma peut être un enchantement quand il est beau, simple, humain et poétique. Un cinéaste évidemment important, qu'est Takeshi Kitano. Et puis dans un autre, tout autre registre, une occasion de rire cet été, c'est celle consacrée à Buster Keaton, l'acrobate du rire, avec plusieurs de ses films, dont le très célèbre Mécano de la Générale, mais aussi Cadet d'eau douce, Collège, ou encore Keaton en 4, qui est une sélection de courts-métrages. Tous ces films ressortent en version restaurée le 9 août. Et puis enfin, mon cher Antoine, eh bien, deux classiques, grand classique de la comédie américaine avec Monsieur Cary Grant, Cette sacrée vérité de Lowe McCarey en réalisant 37 et La Dame du Vendredi de Hawks réalisant 1940 qui ressort tous les deux le 30 août.
Alors, ces films sont formidables parce qu'ils permettent effectivement de retrouver Cary Grant, mais ils permettent aussi de retrouver deux extraordinaires actrices qui sont toutes les deux un peu oubliées et vous verrez vraiment que c'est des actrices de tout premier plan en voyant ces films. C'est pas du tout des actrices comme parfois on peut voir, enfin qui où elles sont là parce que c'est des jolies filles, etc. Là, ce sont vraiment deux stars un peu oubliées. Dans Cette sacrée vérité, Il y a Irene Dunne, Irene Dunne, pour le prononcer un peu plus, à la française. Et donc, mais je crois qu'on dit Dunne quand même. Irene Dunne, qui est vraiment une actrice formidable, une actrice au jeu très moderne. Cette Sacrée Vérité, c'est un film extraordinaire. C'est une comédie du remariage. C'est une comédie sur des gens qui s'apprêtent à divorcer et qui, grâce aux lois américaines un peu compliquées, finalement, ne vont peut-être pas vraiment divorcer. Mais enfin, il y a des scènes absolument extraordinaires quand ils se disputent pour le chien, quand Cary Grant rentre soi-disant d'un voyage en Californie, et pour prouver qu'il était en Californie, il offre à Irene Dunne des oranges sur lesquelles il y a des tampons oranges de Floride. C'est un film d'une drôlerie extraordinaire, cette Sacrée Vérité. C'est vraiment ce qu'on appelle une screwball comédie qui est un genre en soi. L'une des plus drôles qui existent, et accessoirement assez profonde quand même sur le mariage, le divorce, le remariage. Enfin, c'est aussi très émouvant sur la manière dont des couples qui ont été très assortis et qui se défont vont reformer des couples dont il va apparaître assez nettement et parfois de façon un peu gênante à quel point ils sont désassortis. Donc c'est très intéressant et très touchant. Et puis alors His Girl Friday, La Dame du Vendredi, c'est un des films, c'est un film de, je dirais, presque féministe, hein, parce que il y a un monde d'hommes qui est un monde très dur, qui est celui du journalisme, en plus qui n'hésite pas à faire de l'argent sur le spectacle de condamnation à mort. Donc on est dans une comédie, mais une comédie dont la toile de fond n'est pas franchement rigolote. Et donc Cary Grant est dans un personnage plus amer, plus foncièrement voyou que dans beaucoup d'autres de ses personnages, où il y a quand même quelque chose de gentleman en lui. Là, il n'est pas vraiment gentleman, il n'est pas vraiment sympathique. Et par contre, il y a Rosalind Russell qui, elle, joue une femme journaliste. On a vraiment un des premiers grands archétypes de femme au travail dans le cinéma américain. Et elle traverse le film avec une espèce de majesté, une espèce d'humanité qui va s'opposer au monde des hommes. Donc c'est intéressant parce que c'est un film de Howard Hawks, qui n'était pas fondamentalement le type le plus féministe de la Terre. Et pourtant, à la fin, le message laissé par cette comédie l'est assez.
Hello, Jerry.
Hello, Patsy, old girl, how are things?
We weren't expecting you.
Why, what goes on, huh? Mm-hmm.
Hiya, fella. Hello, Mr. Smith. How you been, huh? I'll see you in a minute, boy. I'll see you in a minute. Yeah, sure.
Hello, Jerry.
Hello, Lucy.
What might you be doing here?
Oh, now, don't tell me you've forgotten this is my day to visit Mr. Smith. It says so right there.
What? Oh, I'm so sorry. Mr. Leeson, this is my husband.
Oh.
Oh, he's only my husband for, how much longer is it now, 60 days?
59.
Oh, that's better. Only 59 days. And don't worry about him. He has a continental mind.
Yes. Well, excuse me, what do you say?
I say I'm glad to know you.
How can you be glad to know me? I know how I'd feel if I was sitting with a girl and her husband walked in.
I'll bet you do.
You know, I don't think you ought to go around telling people you're not married. He looks like a nice sort of fella. How do you think he feels?
Why don't you go and play with the dog?
Why don't you go on with whatever you were doing? I'm gonna... Don't mind me.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.